quoi consiste le dialogue social technologique? Quels obstacles se dressent devant lui encore en France? C'est à ces questions et à bien d'autres auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Manon Koech, psychologue du travail, et Vincent Mandino, chef de projet R&D à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Manon et Vincent ont rédigé le rapport « Le développement du dialogue social technologique en France ». C'est à ce titre qu'ils prennent la parole pour 0,. Manon, Vincent, bonjour.
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 Qu'est-ce qu'on entend par dialogue social technologique?
Ce qu'on met derrière dialogue social technologique, c'est l'idée de pouvoir mettre en place des discussions et des négociations sur les transformations numériques entre les employeurs, les salariés et leurs représentants. Ce qui nécessite un dialogue social et un dialogue technique aussi, donc d'introduire dans le dialogue social des éléments aussi techniques sur la technique, sur les transformations numériques.
Peut-être un complément ou une autre façon de dire, au sens strict, on entend par dialogue social technologique un dialogue social institutionnel qui traite de sujets technologiques, dont les questions numériques, IA et compagnie. Et puis, au sens large, ça renvoie au fond à l'articulation de formes de dialogue qui permettent d'encadrer l'introduction, le déploiement, l'usage de nouvelles technologies. Donc, comme le disait Manon, du dialogue social, bien sûr, du dialogue professionnel et aussi du dialogue technique.
Et quels sont les enjeux aujourd'hui derrière le dialogue social technologique et pourquoi l'ANACT aussi a souhaité porter une réflexion là-dessus?
Eh bien, les enjeux sont considérables. Il y a une capacité à transformer les organisations à travers le déploiement de ces outils. Et il y a derrière cette capacité à transformer une forme de déterminisme technologique. On se pose toujours la question de l'impact des technologies sur les organisations. Et donc, ça veut dire qu'elles recèlent une sorte de puissance qu'il faut pouvoir sans doute examiner, encadrer, et peut-être du coup sortir du déterminisme technologique pour retrouver, s'agissant des acteurs des organisations, un pouvoir d'agir sur ces transformations et ne pas déléguer ce pouvoir de transformation aux outils et aux acteurs qui fournissent ces outils technologiques. On l'a pas inventé, hein, ça, on s'appuie sur les accords cadres européens, celui de 2020, celui de 2022, où pour le faire extrêmement rapidement, ça brosse un tableau avec quatre problématiques clés, la question des compétences, la question de la surveillance, la question de la connexion, de la déconnexion et la question du contrôle des humains sur l'intelligence artificielle. Et ce qui nous semble intéressant dans ces accords, c'est la proposition méthodologique de design conjoint des transformations qui est mise en évidence et que nous avons cherché à travers cet appel à projet à outiller.
Moi, je compléterais bien par un constat que je fais aussi quand j'interviens sur ces questions-là, et notamment en matière d'intelligence artificielle, c'est qu'il y a beaucoup d'imaginaire nourri aujourd'hui sur l'intelligence artificielle avec des choses très, voire trop positives, d'autres très dystopiques. Et ça prend toute la place. Moi, ce que je constate aussi, puisqu'on est sur des questions de dialogue social, c'est que le dialogue social aujourd'hui et les instances de dialogue social existantes s'en emparent finalement très peu, malgré le fait qu'il y ait un certain nombre de jurisprudence qui montre bien l'obligation d'infoconsultation sur ces sujets-là. Et les employeurs aussi continuent à siloter les projets, ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'emparer de ce sujet-là en ayant une vision suffisamment globale pour réfléchir au-delà des cas d'usage et du coup au-delà des histoires qu'on se raconte d'efficacité, de performance, de créativité même, allons-y, pourquoi pas. Et donc, l'enjeu aussi, c'est de faire exister un dialogue social sur ces sujets-là dans les entreprises, qui aujourd'hui est très peu présent, Alors, on voit de temps en temps des accords d'entreprise sortir sur ces sujets-là, mais en réalité, c'est assez pauvre. Et pour le coup, on a du mal quand même encore aujourd'hui à identifier comment ça va impacter les métiers, comment ça va impacter les organisations. Et ça, on a besoin de le réguler aujourd'hui, notamment en matière d'intelligence artificielle, entre autres.
À travers ce rapport, nous pouvons accéder à plusieurs projets qui ont essayé de donner corps au dialogue social technologique de manière assez différente. Est-ce que vous pouvez nous partager un exemple?
Alors moi, je vais en présenter un et puis je laisserai peut-être Vincent en présenter un deuxième. Il y en a notamment un qui a été réalisé par l'Institut de recherche informatique de Toulouse, qui a porté une réflexion sur la place et sur le rôle des systèmes d'information numérique dans la démocratie organisationnelle. Donc pour nous, c'était intéressant à l'époque de ces travaux, puisque du coup, ça, quelque part, ça inversait un peu la réflexion qu'on portait nous. Puisque nous, on a plutôt tendance à regarder de prime abord la place de la démocratie quelque part dans les organisations et comment les systèmes d'information peuvent impacter ça. Et donc, ce qui était intéressant dans cette réflexion, c'est qu'eux, ils cherchaient à développer une méthode qui permette d'évaluer les impacts de ces systèmes d'information sur la démocratie dans les organisations et donc de pouvoir produire un diagnostic. Donc, c'est un projet qui avait déjà amorcé un très gros travail avec une méthode qu'ils ont appelée la méthode Isidore. Et grâce à l'AMI, ils ont cherché à développer un outil pour aller un petit peu plus loin dans une dynamique plus préventive qui visait à accompagner les projets informatiques pardon, par le dialogue dans les organisations. Et donc, ils ont développé un outil qui permet de médier, donc une aide à la médiation entre les différents acteurs d'un projet numérique pour pouvoir échanger et mieux se comprendre. Et l'une des facettes que j'ai trouvées particulièrement intéressante, c'est une facette qu'on a appelée de traduction, qui permettait aussi en termes de vocabulaire, donc en termes de langage, de poser des bases communes pour mieux se comprendre. Donc parmi d'autres outils qu'ils ont développés, mais celui-là, j'ai trouvé particulièrement intéressant puisque ça montre bien qu'on a besoin aussi de partager un référentiel commun pour pouvoir échanger sur les projets numériques notamment.
Mais du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, l'outil de médiation faisait quoi exactement? Comment elle médiait?
C'est un pack en fait avec un certain nombre d'outils qui permettaient de mettre en perspective. Alors je sais qu'il a évolué depuis et qui continue à évoluer, mais c'était un pack d'outillage qui permettait de trouver un certain nombre d'outils d'aide à la médiation, dont un vocabulaire explicité, dont bah, habituellement les phases d'un projet numérique, ça passe par ça, ça, ça et ça. Et l'objectif, l'enjeu porté par l'Institut, c'était de dire, si on partage un référentiel commun autour du projet numérique, alors on va pouvoir mieux identifier les besoins des uns et des autres et donc, à terme, construire plus facilement ensemble ce projet-là et dans une logique de démocratie organisationnelle où chacun a bien son rôle et sa place dans l'échange et dans les discussions et les négociations.
Peut-être un deuxième exemple. Moi, je vous partage brièvement un projet qui s'appelle DLIA, qui a été porté par l'IRS, appuyé par Ultra Laborance, et avec un portage politique en fait intersyndical, puisque ça y regroupait l'UGICT CGT, la CFE-CGC, FO Cadre et la CFDT. Et plus largement, il y a eu, disons, une cinquantaine de membres, dont des représentants aussi de syndicats d'employeurs, l'UNAPL et le Sinov IT. Ce projet, il est intéressant parce qu'il cherchait à traduire concrètement le chapitre 3 de l'accord européen de 2022 sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment les humains gardent le contrôle sur l'intelligence artificielle et donc sur les projets d'introduction et de déploiement et d'usage d'IA Et donc, ce qu'a cherché à faire ce projet, c'est de construire de l'outillage pour et avec les acteurs syndicaux. Et donc, ça s'est traduit par des ateliers d'acculturation, mais aussi des ateliers de co-construction, de design d'outils, de méthodes. Et ça a débouché sur la production d'un manifeste. Ça a débouché aussi sur la production d'éléments d'acculturation pour comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut, disons, percevoir de la façon dont ces systèmes sont conçus et de leurs éventuelles implications sur le travail. Et des propositions aussi méthodologiques s'agissant du dialogue social. Donc pour en lister certaines, ça a permis d'identifier comme ça plusieurs leviers. Et donc des leviers comme la mobilisation du règlement général sur la protection des données. Donc comment délégués syndicaux ou les représentants du personnel peuvent aussi se saisir de cet outil-là et de faire, disons, une jonction avec le délégué à la protection des données. Des propositions, évidemment, d'utilisation de la loi européenne sur l'IA, mais aussi de mieux se saisir de ce qui est déjà en place dans le cadre du droit du travail français, et donc mobiliser les canaux d'information, de consultation obligatoires, qu'il s'agisse des consultations sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière de l'entreprise, sur les politiques sociales, conditions de travail et emploi, et sur potentiellement des consultations ponctuelles relatives à l'introduction de nouvelles technologies. Donc ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il propose au fond une sorte de kit de survie du dialogue social technologique, considérant que soit le sujet n'est pas mis sur la table, alors il faut travailler à le mettre sur la table et à produire des arguments et des bonnes raisons de le partager, et puis s'il est mis sur la table, de veiller à ce que des préoccupations soient un peu, disons, partagées, et qu'on ne soit pas, comme l'expliquait Manon tout à l'heure, peut-être trop centré sur une espèce de miracle technologique et qui oublierait un certain nombre de problématiques pratiques, concrètes, pour les professionnels en question.
Et de toutes ces expériences, quels enseignements vous avez pu tirer ?
D'abord, peut-être le premier grand enseignement, c'est qu'il y a eu des compréhensions différentes de ce que le dialogue social technologique veut dire ou pourrait dire. Mais que derrière cette diversité de compréhension, il y a malgré tout un enjeu commun qui consiste à retrouver du pouvoir d'agir sur des situations qui globalement échappent. Et donc, qu'on passe par des formes de dialogue institutionnel ou des formes de dialogue plus professionnel ou de dialogue plus technique, ou l'articulation de ces différentes formes, à chaque fois, ce que visaient les projets, c'était de retrouver prise sur des situations qui échappent. Pour ça, c'est un enseignement, c'est que il y a un enjeu à rouvrir le champ de l'action. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au départ, quand les gens s'inscrivent dans ce projet, ils décrivent un univers où, au fond, il y a une sorte de bulldozer technologique et qui vient un peu écraser toute forme d'action. Et donc, ils cherchaient à rouvrir le champ d'action sur les transformations du travail, rouvrir leur potentiel d'action et revisiter, finalement, ou reconfigurer le système d'interlocution pour retrouver précisément ces prises. Donc, peut-être deux, trois points. Il y a une difficulté ou un besoin de clarification sur ce que dialoguer veut bien dire, et donc une confusion peut-être entre dialoguer et débattre. Et il y a eu dans nos échanges une nécessité à débattre, c'est-à-dire à prendre position sur un sujet, et de se dire que dialoguer, c'est chercher à comprendre l'autre. Et donc, bien souvent, le dialogue, il est encastré dans des formes de débat. Mais il s'agit de faire la part des choses entre comment je prends position, y compris pour prendre position, comment je comprends l'autre qui essaie lui-même de prendre position. Donc ça, c'est une situation en fait délicate, toujours un peu complexe, mais qui a nécessité donc un petit travail de clarification. Et puis, dans cette idée de dialoguer, évidemment, ça passe dans un rapport à l'autre. Et donc, il y a un besoin de définir. C'est-à-dire, pour pouvoir discuter, pour pouvoir dialoguer, il faut peut-être s'entendre sur les termes. Donc, ça paraît un peu bête, ça peut être un peu évident. Et en fait, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, personne n'est vraiment d'accord sur les termes. Et donc, du coup, en fait, ce qu'on a observé, c'est que dans ces projets, il y avait eu un travail, non pas de définition a priori qui serait produit par des experts, mais plutôt un travail d'entre-définition de ce qu'on comprend du sujet et de qui on est pour pouvoir opérer ce sujet. Donc, un travail d'entre-définition sur l'objet lui-même, mais aussi sur qui on est et ce qu'on a à faire collectivement. Donc ça a été, je trouve, intéressant. Et puis peut-être un dernier point, c'est que au-delà du travail d'entre-définition, c'est que c'est des sujets qui sont quand même, disons, assez dynamiques, pas finis, toujours en cours, et ça va très vite, etc. Et en même temps, c'est des vieux sujets de transformation des organisations liées aux techno. Et en fait, ce qu'ont montré ces projets, c'est qu'il y avait un besoin d'enquêter, d'observer, d'enquêter, et si possible, collectivement. Donc ça, c'est, je crois, des points d'enseignement tout à fait intéressants à partager. Ouais, quand même, un enseignement important aussi, c'est que... Alors, c'est pareil, c'est un peu bête à dire, mais ça va mieux en le disant, pour le coup. C'est que ces projets, disons, de nouvelles technologies, ce ne sont jamais simplement des projets technologiques. Ce sont toujours, en même temps, des projets de transformation professionnelle, de transformation organisationnelle, de transformation institutionnelle, c'est-à-dire les règles du jeu qu'on se donne, quoi, et qu'on essaye de construire collectivement. Donc ça, ça a été aussi un effet d'apprentissage intéressant. Ce qui est aussi, je pense, clé, c'est que c'est déjà pas simple le dialogue social en général, et c'est encore moins simple quand il s'agit d'appréhender des sujets qu'on considère a priori complexes, parce que techniques, etc. Et donc du coup, ce que met en évidence, enfin, la grande valeur d'une certaine façon des projets de nouvelles technologies, c'est que ça fait un peu miroir. Et que ça met en évidence la façon dont on travaille et aussi la façon dont on a l'habitude de travailler et de dialoguer. Et donc, en fait, l'introduction de nouvelles technologies, elle permet de développer une sensibilité à l'occasion sur les technologies elles-mêmes, mais aussi sur la façon dont on raisonne le travail et dont on opère le dialogue. Et donc, de ce point de vue, c'est assez heuristique, c'est assez apprenant. Et donc, du coup, ça a débouché, si on fait un peu la somme des projets ou si on fait l'étendue, sur des processus à développer des processus conjoints de formation, de conception, d'exploration, d'expérimentation, d'évaluation. Et donc, on voit qu'on n'a pas l'habitude, sous nos latitudes, de procéder à ce genre de processus conjoints. Et donc, c'est en ce sens que l'appel à projet et que les projets qui ont été soutenus, ils sont intéressants parce qu'ils sont un peu pionniers et d'une certaine façon, ils vont sur des chemins qui ne sont pas encore tout à fait bien usités. Et pour terminer... pourquoi c'est intéressant de progresser là-dessus? Ça permet d'améliorer, au fond, la qualité des projets. Ça permet d'améliorer la qualité du dialogue. C'est-à-dire quand on a des objets mieux définis, mieux circonscrits, mieux élaborés, des processus plus sécurisés d'une certaine façon, et puis des relations sociales aussi de meilleure qualité, en général, les projets, et ce qui ressort des projets, sont meilleurs. Et donc, si les projets sont meilleurs... parce que le dialogue est meilleur, c'est derrière la qualité du travail et les conditions de travail qui est améliorée. Et si on peut aller un peu plus loin, c'est peut-être aussi la qualité des technologies qui sont mises à disposition, qui sont améliorées, dès lors que le dialogue n'est pas simplement enfermé entre les parties classiques du dialogue social, mais qu'on arrive à faire la jonction avec les opérateurs et fournisseurs de technologies, de manière à ce que les choses soient adaptées à la réalité du travail et des contextes.
Et donc, au vu de ce que vous avez vu, en tout cas dans ces expériences, à travers ces expériences, quelles seraient les conditions minimales qui doivent exister dans une organisation pour rendre ce dialogue réel, possible, autour de sujets technologiques ?
Moi, pour ça, je voudrais partager une hypothèse que je fais, certainement simpliste. Moi, je me dis, mais pourquoi c'est aussi vendeur un cas d'usage ? Et du coup, moi, là où j'en suis dans ma réflexion, je me dis, mais en fait, c'est vendeur parce que c'est hyper concret, un cas d'usage, en fait. Du coup, on peut tous se comprendre autour d'un cas d'usage. C'est hyper facile de discuter autour d'un cas d'usage. C'est concret pour tout le monde. peu importe les connaissances et les compétences qu'on a en matière technique et puis en matière de travail aussi. Pourquoi je dis ça pour répondre à cette question? Parce que je pense que la première chose, c'est aussi de faire exister l'ambiguïté qu'il y a derrière une transformation numérique, dans la mesure où n'importe quel outil va avoir des aspects très contraignants sur les métiers et les organisations, et aussi des aspects très ressources, très favorables à un certain nombre de choses. Et donc, je pense que la première chose dans les conditions minimales, c'est s'intéresser à cette ambiguïté-là, essayer de la documenter, de la comprendre. Vincent en a parlé un peu. Plus on va s'intéresser à cette ambiguïté et à ce qu'elle produit sur le travail, sur les organisations et sur la capacité à dialoguer, plus on va pouvoir dialoguer de manière concrète et réelle sur les sujets technologiques. Donc ça, c'est la capacité à comprendre un peu ce qui se joue, mais aussi pour sortir des histoires qu'on raconte qui sont finalement très techniques et très technocentrées. Je pense que la deuxième condition minimale, c'est du coup de pouvoir construire un dialogue social de qualité. Et ça, ça passe par ce qu'on a appelé les cultures techniques d'un côté et la culture du travail de l'autre. Plus on va comprendre comment fonctionnent ces systèmes-là et plus on va être fin dans la façon dont on les analyse, plus on va pouvoir se positionner face à une transformation. Et de la même manière, plus on est fin dans la compréhension du travail, des organisations de travail, ce que ça fait de travailler, plus on va aussi pouvoir se positionner sur la façon dont on voit la suite avec ces transformations ou sans ces transformations par ailleurs, puisqu'on oublie souvent qu'on a le choix aussi, quand même, un peu. Et donc, pour pouvoir construire ça, c'est aussi construire une capacité à discuter de ces choses-là. Et puis, la dernière chose que moi, ça m'évoque, les conditions minimales, c'est aussi la capacité à agir sur les transformations numériques et donc être dans l'action. Et pour ça, aujourd'hui, on a quand même quelques outils. J'ai cité les jurisprudences qui obligent à l'information-consultation, mais on peut aussi parler d'une obligation qui existe depuis fort longtemps maintenant, qui est les risques professionnels et l'évaluation des risques professionnels. Et à chaque grosse transformation, on sait que les risques bougent et doivent être réévalués et de nouveau prévenus. Et puis, on a quand même des accords cadres européens intéressants sur ces sujets-là et l'AI Act qui a quand même légiféré sur un certain nombre de choses à l'échelle européenne. Donc, des outils pour faire exister des négociations et un dialogue social institutionnalisé là-dessus, on a aujourd'hui des outils.
Alors, peut-être un petit mot de complément. Manon parlait d'articuler finalement une culture technique et une culture du travail. Je pense qu'on peut rajouter peut-être aussi une culture du dialogue. Il y a besoin de comprendre comment fonctionnent ces machines pour sortir un peu du fantasme, quoi, de la pensée magique. Il y a besoin de sortir, disons, du travail prescrit pour aller vers davantage de compréhension de ce que c'est que le travail réel et puis les écarts, etc. Et puis la question du dialogue, parce qu'en fait, elle ne va pas de soi. Si elle allait de soi, ça se saurait. Et donc, en fait, il y a aussi à progresser en la matière. Et donc, ça veut dire peut-être avoir des points de référence sur comment d'autres que nous ont d'autres habitudes de dialogue, d'autres façons de dialoguer. On peut penser aux pays scandinaves, on peut penser, bref, à d'autres cultures qui ont d'autres façons d'appréhender le dialogue, et qui ne considèrent pas le dialogue seulement dans une visée défensive, mais dans une visée créative et collective qui permet à la fois de sécuriser en fait des processus et aussi d'innover sur le plan technologique, sur le plan économique et aussi sur le plan social. Et donc, il me semble que voilà, il y a peut-être les conditions minimales, c'est d'avoir une culture partagée sur ces trois aspects.
Ok, donc à partir de tout ce que vous dites là, c'est sur les conditions minimales, qui sont claires, mais qui sont larges, dans l'optique de demain, d'autres personnes, d'autres entreprises, mettre en place d'autres outils technologiques, quelles sont les premières actions simples que vous voyez vraiment une ou deux choses simples? Vous choisissez à quelle échelle d'acteurs qu'il faudrait faire pour que ce dialogue se mette vraiment en place?
Oui, enfin moi je peux bien commencer pour dire un truc un peu bête, mais donc en prolongement de ce que je viens de dire sur la culture là, en fait ça veut dire démystifier l'IA, ça veut dire démystifier le travail, ça veut dire démystifier le dialogue. Et donc une manière d'opérer ça concrètement, ça peut passer par des petites opérations, hein. Par exemple, si je reprends le projet d'IA, une des propositions qui est faite, qui a l'air simple à mettre en œuvre et qui en fait est plus compliquée qu'on ne l'imagine parce qu'elle soulève de grands enjeux. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut déterminer collectivement le nombre de systèmes d'intelligence artificielle qui sont en usage dans une organisation? Donc est-ce qu'on peut en faire un inventaire? Et une fois qu'on est capable de faire cet inventaire, est-ce qu'on est capable de caractériser ces systèmes? Les caractériser sur leur fonctionnement, sur les modèles qui sont appliqués, sur les données d'entraînement, mais aussi les caractériser sur quels usages en pratique, avec quels effets sur les conditions de travail, des effets plutôt recherchés, des effets pas recherchés, des effets positifs, des effets qui le sont moins. Donc un truc simple pour commencer, c'est de fabriquer cet inventaire et de le faire collectivement. Et à partir de là, dans la construction même de l'inventaire, ça devient une sorte d'objet intermédiaire qui va susciter des échanges et qui va être support à un dialogue possiblement un peu mieux instruit.
Moi, ça fait quelques semaines que je me balade, entre guillemets, entre différentes interventions sous des formats différents. Et que ce que je constate, c'est qu'il y a besoin de prendre conscience de l'ambiguïté dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Et donc, moi, je parlerai de formation, en fait. Et j'ai un exemple très concret récent. J'ai vu plusieurs groupes d'élus ces dernières semaines. Et en fait, pris dans les cas d'usage et l'efficacité même pour eux-mêmes qui peuvent vivre en utilisant l'IA, ils en ont un peu oublié quelque part les effets que ça pouvait avoir aussi sur le travail et les organisations du travail, et le simple fait d'en échanger avec eux a remis de la nuance là-dedans et a été très favorable à des actions assez rapides d'ailleurs en instance par la suite. Et moi, je crois assez qu'il faut qu'on rééquilibre ça, et je pense que ça passe par la formation au sens large, la curiosité de comprendre ce qui se joue derrière ça, la capacité à en discuter et à débattre dessus aussi, effectivement. Et donc, pour moi, plus on va ramener de la nuance et de l'équilibre dans cette ambiguïté, enfin, plus on va mettre à jour cette ambiguïté entre... dans les effets et dans ce que ça occasionne, plus on va permettre que ce dialogue existe.
Manon, Vincent, merci.
Merci à toi, avec plaisir.
Merci à toi, Lucrezia.
C'est ainsi que se termine notre épisode consacré au dialogue social technologique en France. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à lire le rapport « Le développement du dialogue social technologique en France » publié par l'ANACT en novembre 2025. Je vous remercie et à très bientôt.